Nous sommes de retour. On va discuter maintenant de ce programme d'évacuation de services aéromédicaux, d'évacuation médicale par avion, EVAC. Et on va en discuter avec M. Pierre-Patrick Dupont, qui est le directeur à la clientèle des urgences et du programme justement d'évacuation d'EVAC, le programme EVAC qu'on l'appelle ainsi, et aussi avec l'infirmière ou la coordonnatrice plutôt aux soins cliniques, voilà, Sylvie Côté, qui est avec nous. Bonjour.
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 Bien, d'abord, tiens, on voudrait en savoir un peu plus sur ce service aéromédical. Comment ça a été mis en place et comment ça fonctionne au juste?
Ça a été mis en place il y a plus d'une trentaine d'années, 35 ans et plus, là, pour bien dire. Ça a été mis en place dans un premier temps pour aider les gens en région à être capables d'être transférés adéquatement là, dans les centres hospitaliers qui étaient plus tertiaires à ce moment-là. Il n'y avait rien d'organisé comme tel. Il y avait eu un conseil qui avait été demandé au niveau ministériel à ce moment-là, une étude qui avait été faite, puis de voir la faisabilité là, d'avoir un service d'évacuation, mais qui serait ministériel. Alors, ça a été mis en place dans les années 1980. Au tout début, on avait juste le service de l'avion hôpital. À ce moment-là, ils transportaient les patients avec un médecin et une infirmière, puis ils couvrent la grandeur du territoire québécois. Dans les années 2000, à un moment donné, on s'est rendu compte que le taux de patients qui étaient transférés augmentait beaucoup. Et puis, on est venu avec un service de navette multipatients pour, dans un premier temps, emmener les patients qui n'avaient pas nécessairement besoin d'un médecin à bord, qui pouvaient déjà être programmés la veille et puis être évacués avec deux infirmières. Et puis, pour ramener aussi les patients dans leur centre pour qu'ils puissent humainement là, compléter leur... la fin de leur traitement là, dans leur centre avec leur famille puis dans leur milieu de vie là, habituel. Au niveau du service de navette, maintenant, on est rendu avec une navette à 5 jours semaine, une navette dans l'Est. Donc, on part de Québec, puis on fait la Gaspésie, la Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine, puis on peut aller jusqu'au Blanc-Sablon. Alors, cette navette-là amène des patients dans votre région, des patients qui ont déjà subi là, une intervention et ramène aussi les patients vers Québec pour qu'ils subissent des interventions. Puis au niveau de l'avion hôpital, mais c'est toujours à la demande. Alors, si on peut aller 2-3 fois dans une journée en Gaspésie, puis on peut être 2-3 jours sans y aller, tout dépendant là, le besoin que vous avez dans vos différents là, centres hospitaliers. EVAC, c'est comme la prolongation là, de votre CH. Donc, on donne tous les soins de niveau urgence et niveau soins intensifs là, à bord là, de l'avion, selon les besoins là, que le patient a. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours un médecin à bord. Parfois, quand c'est des tout petits bébés, on a aussi à bord un inhalothérapeute et une infirmière qui est spécialisée en néonate, en plus de l'équipe habituelle là, de l'EVAC, ce qui fait que ça nous permet des fois de prendre un patient adulte en même temps qu'un patient enfant là, dans l'avion. Le service de navette, alors lui, il est multipatient. Alors, j'ai deux types d'avions, j'ai deux dash, j'en ai toujours juste un qui vole à la fois, l'autre est comme le backup là, de l'avion. Alors, à ce moment-là, dans un des deux dash, j'ai deux patients qui peuvent être couchés, un patient en incubateur, et puis j'ai 16 à 17 patients là, qui peuvent être assis. Et puis, dans le nouvel avion, le GURM, qui est un dash aussi, à ce moment-là, j'ai 3 patients couchés sur civière, un incubateur. Je peux aller jusqu'à 21-22 patients là, assis là, à bord de cet avion-là. Alors, c'est sûr que quand on part de Québec, parfois, on a 10, 12, 19, 20 patients. On en laisse tout le long de notre route. Donc, Baie-Comeau, traverse en Gaspésie, on revient après sur la Côte-Nord. Et puis, on en reprend aussi. Donc, c'est une bonne logistique là, à faire là, la veille, tout dépendant le temps permis aux patients d'être dans l'avion et puis la destination qu'on a à faire là, avec ce patient-là.
Bon, et pour les avions, ce qu'on appelle l'avion hôpital, dans des cas d'urgence, et parce que là, évidemment, le dossier dont on va parler, c'est vraiment, je crois, attrait plus à ces appareils-là. Quelle est un peu la configuration et comment ça fonctionne?
Dans l'avion hôpital, c'est deux Challenger. Il y en a un qui est comme le backup de l'avion hôpital comme tel, quand il y a des bris ou quand il y a des entretiens à faire là, sur l'appareil. Alors, dans l'avion hôpital, il y a 3 civières, 3 patients couchés, un incubateur. Et puis, en cabine, j'ai 2 sièges pour l'infirmière et puis le médecin. Alors, chacun un siège. J'ai un siège aussi pour l'inhalothérapeute quand il assiste le transfert, et pour l'infirmière là, de l'équipe de néonat. Alors, c'est sûr que c'est un avion qui, dans un premier temps, a été fait pour donner des soins aux patients, des soins actifs. Là. Donc, on peut faire des petites mini-chirurgies, on peut faire différentes choses dans cet avion-là. L'autre avion qui vient en backup, elle, à cause de sa dimension intérieure, Elle permet d'avoir deux civières, donc deux patients couchés adultes et un incubateur.
Donc, on comprend qu'il y a quoi, quatre sièges de disponibles dans ces appareils-là, moyens, là?
Oui. Bien, dans l'avion hôpital URG, j'ai quatre sièges. Dans l'autre avion, là, qui est dans le QPQ, alors à ce moment-là, j'ai pas quatre sièges, j'ai trois places.
Trois placements. OK. Bon, en ce qui concerne les enfants, il y a eu évidemment tout ce qui a été médiatisé là, par rapport au fait que les parents ne peuvent pas toujours embarquer avec leur enfant ou ne peuvent pas embarquer. Les pédiatres aussi, bon, qui ont signalé qu'il fallait peut-être changer les choses, que les enfants étaient souvent en détresse. Ça compliquait aussi les traitements rendus là-bas parce qu'il n'y a pas de parents pour approuver ou non les traitements. Bien, quelle est cette politique en ce moment par rapport à cela, surtout pour les enfants là, chez vous?
C'est une politique qui est quand même vaste parce que c'est pas noir ou blanc. Il y a plusieurs évaluations qui doivent être faites, entre autres la condition de l'enfant, les spécialistes qui ont besoin d'être à bord pour la condition de l'enfant. Comme Mme Côté vous le mentionnait tout à l'heure, lorsqu'on va dans une région, il y a des fois où on peut prendre un enfant et un adulte. Alors, il y a des choix cliniques également qui doivent être faits. Est-ce qu'on va chercher l'enfant puis on laisse l'autre enfant ou l'autre adulte là en attendant le prochain vol? Et il n'y a pas une interdiction, comme vous le mentionnez, aussi drastique que ça a été peut-être dans certains cas mentionné. C'est beaucoup des évaluations qui doivent être faites. Puis vous comprenez qu'il y a des situations qui peuvent, en vol, être très différentes de ce qui se passe au sol. Exemple, un enfant qui ne va pas bien en vol, bien, l'équipe médicale doit s'en occuper. Il faut s'assurer également que le parent, le père ou la mère qui accompagnera l'enfant, est en mesure de voir et d'assister à ça, même si c'est pas sur son enfant, si c'est un autre adulte. Dans une salle d'urgence terrestre, si ça va pas bien, on est toujours en mesure de prendre l'adulte puis de le sortir de la salle d'urgence. Dans l'avion, vous comprenez que c'est un petit peu plus difficile si cette situation-là se présente. Alors, c'est des évaluations comme ça qui doivent être faites.
Oui.
Regardez, il y a eu une situation qui s'est passée au cours des deux dernières années, lorsqu'il y a eu un spécialiste de Montréal qui a dû monter avec un intensiviste parce que la condition de l'enfant faisait en sorte que ça prenait beaucoup de spécialistes dans le Challenger. Puis lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il n'y aurait pas eu de place pour entrer un parent parce qu'on aurait eu à faire un choix à dire ben, quel spécialiste on sort de l'avion pour faire entrer un parent. Vous allez me dire que c'est exceptionnel. Oui, ça l'est. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas tracer une ligne en disant c'est interdit, toute condition. C'est vraiment des évaluations. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas que seulement EVAC qui décide des règles à travers tout ça. Ça a été dit dans les médias de façon parfois simpliste, bien, ajouter un banc et voilà, le problème est réglé.
Oui, la configuration, là, c'est pas si compliqué que ça, oui.
Bien, il y a beaucoup d'éléments qui sont de l'avionique, là, comme excusez le terme anglais, là, mais le weight and balance, qui dit qu'on doit balancer un avion, on ne peut pas tout mettre le poids en avant comme tout mettre le poids en arrière. Il y a également des normes de Transport Canada que ni EVAC, ni le ministère de la Santé a le contrôle sur les règles au niveau de l'avionique. Alors, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Revenons à ce que vous mentionnez. Ça a été dit depuis quand même un certain temps que les parents doivent accompagner les enfants. Depuis cet automne, que Mme Côté est en travail, travaille présentement avec les gens de Montréal, entre autres l'hôpital Montréal pour enfants, et d'autres CIUS ou CIS dans la province, pour regarder qu'est-ce qui peut être fait. Ça a été apporté au ministère de la Santé. Il y a des travaux qui se font de façon tripartie. EVAC, le ministère de la Santé, le service aérien gouvernemental, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce besoin-là qui est nouveau. Alors, EVAC, présentement, est en travaux avec les partenaires dont je vous parlais pour regarder la faisabilité dans l'avenir.
Oui, bon, lorsqu'on parle de la Gaspésie au niveau des transports par année ou la dernière année, comment ça s'est passé?
Moi, je peux vous donner les chiffres là, de l'année qui s'est terminée au 31 mars 2017. Alors, l'année 2017, là, l'année financière, j'ai transporté 1910 patients de la Gaspésie et de la Madeleine, tous services confondus, alors services de navette et services d'avion. Sur ce nombre, on avait 98 enfants. Des 98 enfants, j'ai 65 enfants qui ont voyagé avec nous avec le service de navette. J'en ai 33 qui ont pris le service d'avion. J'ai également 53 parents qui ont pu accompagner les enfants, souvent dans le service de navette. Si vous me dites, ben vous avez 65 enfants et juste 53, le service est offert dans la navette. Habituellement, il n'y a pas de problématique là, à tous les parents. Mais souvent, les plus grands enfants, là, 16, 17, 18 ans, des fois, les parents aiment mieux prendre un moyen personnel pour se rendre à l'hôpital ou des fois, ils ont déjà quitté. Ou c'est les tout petits bébés qui sont venus au monde prématurément là, dans les centres tertiaires. Souvent, on ramène le bébé, mais les parents, la maman est déjà rendue là, dans son milieu de vie.
OK, donc on comprend bien. Et sur les 33 que vous dites qui ont été transportés par l'avion hôpital en urgence, c'est là que vous êtes en train de travailler pour permettre aux parents donc de pouvoir prendre le vol avec leur enfant, c'est ça?
Comme on dit, c'est assez complexe, mais c'est là-dessus qu'on travaille pour être capable, on comprend bien le besoin, puis depuis le mois d'octobre, qu'on travaille avec les différents partenaires impliqués là, directement dans ce dossier-là, à être capable de le faire évoluer positivement là, pour les familles.
OK. Donc, sur les 33, il n'y a pas eu de parents qui ont accompagné dans la dernière année.
Sur les 33 de l'avion hôpital, non. Parce que souvent, bien, comme on expliquait tout à l'heure, le service d'avion hôpital, bien, il y a des interventions qui se font dans l'avion. Des fois, il y a d'autres patients aussi là, dans l'avion. Parfois, la météo, surtout en Gaspésie, vous n'êtes pas choyé pour la météo. Donc, si on sait qu'on peut atterrir à telle heure à Maria, puis qu'il y a déjà deux adultes et un enfant, bien, on va prendre les trois patients en même temps. Des fois, ça m'amène même à mettre des infirmières de plus dans l'avion ou des inhalothérapeutes pour être capable de donner les soins convenables aux patients durant le vol jusqu'à Québec.
Donc, c'est pas si
Parce que nous,
facile.
quand on arrive à Québec,
Ouais.
après, il faut les escorter, ces patients-là, dans les centres hospitaliers. Fait que souvent, ça nous fait mettre des personnes de plus dans l'avion pour être capable, quand on arrive à Québec, de partir avec les patients puis de les emmener là, dans les centres où ils sont attendus.
Donc, c'est pas si facile que de juste parler d'une configuration d'avion avec une place de plus, comme on l'a entendu dans les médias là, au cours des dernières semaines, là.
Mais tout à fait. Si ça avait été le cas, sachez que on n'en serait pas là. On vous aurait dit, on va mettre un banc de plus, puis ça, c'est réglé, là.
Ça va
Mais
régler le
comme je
problème.
mentionnais tout à l'heure, il y a des éléments de Transport Canada dans
Oui,
l'avionique qui doivent
c'est ça.
être pris en considération.
Et en même temps, la situation à bord, parce qu'il y a des patients, on comprend, là, justement, qui peuvent avoir besoin de soins très urgents et la dynamique fait en sorte que les parents ne seraient pas peut-être bien placés là, dans l'appareil avec tout ça, là.
C'est l'évaluation qu'il faut en faire, puis faut travailler en partenariat avec les pilotes aussi, là, qui est le commandant de l'avion, là. Alors, il faut que tout le monde soit à l'aise, puis de façon sécuritaire dans l'avion.
Alors, M. Pierre-Patrick Dupont, directeur à la clientèle des urgences et aussi du programme EVAC et aussi la coordonnatrice clinique au programme EVAC, Sylvie Côté. Merci beaucoup pour votre collaboration.
Merci à
Merci.
vous.